la semaine dernière, il y avait les Yabon Awards, qui sont une sorte de remise de prix où il y a sur le pire, les, on va dire, les préjugés et les discours racistes entendus dans les médias. Et alors là, on peut quand même tomber des nues en matière d'exemples de racisme au quotidien. Alors nous avons en plateau deux membres de l'association qui a organisé les Yabon Awards, donc qui sont les Indivisibles. Donc bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir invités.
Alors peut-être que pour commencer, parce que comme on ne connaît pas forcément très bien les Indivisibles, alors que les Yabon Awards ont eu une très bonne couverture presse, hein, finalement, on en a parlé.
Ça a été bien relayé, effectivement, au sein de la presse.
De toutes les presses, d'ailleurs.
De toutes les presses, effectivement. On a eu une assez bonne couverture, on est assez contents, effectivement.
Et donc, les Indivisibles, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient cette association et pourquoi Indivisibles ?
C'est un principe républicain. La France, elle est une et indivisible et on considère que c'est la même chose pour tous les citoyens français.
C'est même dans la Constitution française. Voilà. Hein.
D'où les Indivisibles, d'où notre nom. Ensuite, on est une association qui a été créée en janvier 2007, qui regroupe aujourd'hui une centaine de membres, tous bénévoles. Et on a pris le parti de rire et de lutter contre les préjugés par l'humour, en fait. Voilà, ça, c'est un peu notre credo.
Et tout type de préjugés
Les préjugés ethno-raciaux, essentiellement.
Et alors, vos actions, là, on a vu une première des actions, c'est les Yabon Awards. Je crois que l'an dernier, c'était les premiers Yabon.
Ouais, l'année dernière, ça a été la première édition des Yabon Awards. On avait même peur à un moment, on s'est dit, oh ben, est-ce qu'on va faire une deuxième cérémonie des Yabon? Et en fait, avec le débat sur l'identité nationale, etc.
Il y a eu le débat sur l'identité nationale, et puis il y a aussi la crise sociale aux Antilles qui a fait dire quand même des choses assez extraordinaires.
Il y a eu beaucoup de choses. Alors effectivement, il y a eu la crise aux Antilles. Il y a eu aussi le débat sur l'identité nationale. C'est ajouté à ça aussi une islamophobie assez intense de la part des politiques avec le débat sur la burqa. Si ce n'était pas le débat sur la burqa, c'était sur...
Il y a eu la polygamie aussi.
Il y a eu la polygamie. Il y a eu est-ce qu'on a le droit en fait, de manger halal. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, il y avait un discours assez... assez répandu au sein de la classe politique actuelle, qui stigmatisait une partie de la population. Ça ne date pas effectivement d'aujourd'hui, mais effectivement notre action qui s'inscrit dans le temps et qui a commencé bien avant en fait, la première édition des Yabon, on a jugé bon finalement de refaire une deuxième édition pour récompenser finalement ces élites, parce qu'on ne récompense pas forcément toutes les politiques. C'est les politiques, c'est les journalistes, ce sont les élites, les philosophes.
Les personnes publiques, en fait.
Les personnes publiques qui ont un discours, public, une parole publique qui stigmatise dans un premier temps, qui discrimine et qui, quand on a le ministre de l'Intérieur qui a des mots en fait assez durs sur les Auvergnats, on peut se poser pas mal de questions, voilà.
Et le souci aussi des personnes publiques, c'est aussi que leurs propos peuvent avoir des conséquences au quotidien sur pas mal de Français, quoi. Voilà, et ça, il faut le rappeler.
C'est effectivement pas nouveau ce type de discours, mais on a quand même l'impression que qu'il y a eu, je sais pas, comme une bombe qui a sauté peut-être depuis 2002, finalement, où avant c'était quand même plutôt stigmatisé comme un discours d'extrême droite, et aujourd'hui on entend des choses qui étaient marquées à l'extrême droite et qui ne sont plus du tout marquées à l'extrême droite dans la bouche de certains. Quoi,
effectivement, mais c'est... Enfin, depuis l'élection effectivement de Nicolas Sarkozy, cette élection qui a vu en fait, il a récupéré effectivement, c'est ce qu'on dit, il a récupéré certaines voix du Front National, et la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, c'était lors des précédentes élections, n'a pas eu lieu lors de la dernière. Donc le curseur s'est un petit peu dévié sur la droite et sur l'extrême droite. Et ça a libéralisé en fait un discours qui est maintenant pas l'apanage uniquement des politiques, mais aussi de journalistes. Je veux citer en fait Éric Zemmour.
La parole raciste, en fait, on trouve qu'elle a été banalisée et en plus, elle est excusée par d'autres politiques. Quoi. Et ça, on trouve ça complètement aberrant. Voilà, lorsque Brice Hortefeux dit « quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes », on sait très bien de qui il parle. Et Georges Frêche, Fadela Amara, ont été les premiers à le... à l'excuser en disant ben non, non, en fait, il n'est pas raciste, je le connais bien. Non, ça, c'est pas possible, quoi.
Voilà, c'est ce qui a donné. En fait, ça a donné chez nous une nouvelle catégorie qui est touche pas à mon pote raciste, entre guillemets. C'est la catégorie en fait qui excuse certains propos. Tout simplement pour leur dire, voilà, moi je le connais, il n'est pas raciste, c'est mon
comme
pote.
À une époque, on disait, oui, moi je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir, par exemple. Voilà. Et bien là, c'est Fadela Amera qui dit, oui, non, non, pas du tout.
J'ai un ami, en fait, raciste.
J'ai un raciste, mais
comme
c'est mon ami.
Arabe, ben, on ne va pas, pas considérer
c'est,
que...
C'est l'excuse, effectivement, et c'est d'autant plus regrettable, en fait, qu'il s'agit de personnes politiques, de personnes publiques. Mais aussi regrettable parce que les gens qui l'excusent ou qui essayent d'excuser en fait ses actes ou ses paroles sont dans la majorité, enfin sont des fois issus de minorités et ont pu à un moment donné en fait subir un certain racisme. Donc voilà, c'est un peu l'ambiguïté et l'hypocrisie de la chose.
Oui, parce que dans les nommés au Yabou Awards cette année, je crois que l'an dernier vous aviez eu des critiques en tout cas sur le fait que c'était essentiellement des hommes blancs qui étaient.
Gaston Kallmann était nommé. Hein. Oui, il est noir.
Gaston Kallmann était nommé l'an dernier, mais effectivement la première critique effectivement qu'on peut nous faire, c'est vous attaquez finalement qu'à une catégorie de la population qui est l'homme blanc.
À laquelle on peut répondre aussi que c'est essentiellement des hommes blancs qui ont aussi la parole.
Qui ont aussi la parole dans l'espace public. Donc forcément, il y a une profusion de la part de cette catégorie-là. Mais cette année, on ne se pose pas la question de savoir si on s'attaque plus à une catégorie plutôt qu'à une autre. Nous, on s'attaque aux propos. Donc après, celui qui est responsable de ses propos et celui qui les a énoncés, que ça revienne en majorité comme étant des gens blancs, effectivement la cinquantaine est plutôt d'hommes politiques, après c'est pas le fait du hasard, encore une fois, mais nous, on s'attache plus aux propos qu'aux personnes. Voilà.
Oui, j'imagine que vous avez fait comme une sorte de veille éditoriale de tous les propos racistes de l'année pour la sélection.
Exactement. Et on a eu du boulot.
Et Yabou, en fait, c'est le travail d'une année qui est réalisé par un groupe dans l'association qui s'occupe de la veille médiatique, à savoir qui lit les journaux, s'informe, etc. Et dès que une phrase est considérée comme raciste, stigmatisante et qu'elle est contre notre charte, on en discute avec les autres. On essaie de publier un article pour le site et en tout cas, on la garde pour les Yabou Awards.
Oui, alors là, tu parles de votre charte. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est la charte des indivisibles ?
Alors, la charte, c'est le fondement de notre travail, en fait. C'est différents énoncés pour expliquer le pourquoi de l'association, déjà. Et comme une sorte de ligne de conduite, en fait, mais pour l'association. Voilà. Est-ce que j'ai des exemples en tête d'articles de la charte ?
Bon, je dois en avoir, hein, parce que j'avoue que je l'ai édité.
Vous l'avez édité.
<C'est bien. rire> peut-être surtout les principes, plutôt que des articles.
Oui.
Qu'est-ce qui vous...
L'un des principes fondateurs de la charte, c'est qui est fondateur en fait de notre association, c'est notre ligne, c'est français sans commentaire. Voilà, je pense que ça c'est un élément clé qui nous identifie français sans commentaire parce que on n'a pas forcément, on n'a pas même pas du tout envie de s'expliquer. Sur notre parcours, sur nos origines,
sur
nos prétendues aussi origines, sur nos prétendus cultes, je dirais, qu'on soit entre guillemets originaire du Maghreb, d'Afrique noire, des Antilles, on est français à part entière et on n'a pas à le justifier. Donc c'est aussi, c'est l'élément en fait fondateur de l'association française sans commentaire.
Et je pense que le deuxième point de la charte aussi, c'est que nous sommes tous porteurs de préjugés. Et en fait, on ne veut pas du tout se poser en donneur de leçons en disant « Ah là là, tu es raciste, etc. C'est pas bien. » Non, on a tous des préjugés après. Il faut essayer de savoir d'où ils viennent, pourquoi on les a, pourquoi c'est quelque chose qui est récurrent. Et voilà, quoi.
Et puis de travailler aussi ensemble pour transformer ces préjugés.
Exactement.
Pour déconstruire ces préjugés. Donc c'est aussi important. C'est aussi important de les déconstruire. C'est aussi important de les expliquer. C'est aussi important de faire cette action d'éducation, je dirais, pour comprendre effectivement qu'on a tous des préjugés, mais qu'en les déconstruisant, il y a une meilleure acceptation entre guillemets de l'autre et une meilleure compréhension de la personne que vous avez en face, tout simplement.
Alors, dans les nommés des Yamou Awards, vous avez exclu tous les propos du Front National. J'imagine que c'est évidemment éminemment politique.
On ne les a pas exclus. Non, si vous voulez, en fait, quand on fait une sélection, en l'occurrence pour la deuxième édition des Yabons, on fait un focus sur l'année qui est passée, tout simplement. Et il se trouve que cette année, de grands noms, et pas des moindres du gouvernement, se sont assez bien distingués, je dirais, que ce soit Brice Hortefeux, que ce soit Éric Besson, que ce soit Nicolas Sarkozy. En l'espace d'un an, on a eu une compilation, en fait, de phrases les plus discriminantes les unes que les autres ou les plus racistes les unes que les autres. Donc on n'a pas exclu le Front National de quoi que ce soit. Par contre, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une plus grande majorité de phrases racistes d'un côté plutôt que de l'autre. Mais on n'a pas oublié non plus les gens de gauche. Hein. Manuel Valls faisait partie des nominés. Fadela Amara, si on peut la considérer de gauche, est aussi dans la sélection.
Justement, à vos oreilles, puisque moi j'étais au Yabou Award et là j'ai fait un zapping des nommés et des nommés de cette année. Donc il y a un peu de tout. Alors écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles et puis peut-être que votez de votre côté derrière le micro et vous verrez, on aura les résultats dans 4 minutes.
And the loser is.
Comment ça va?
Ça va bien?
Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Emeric. On me met quelques blancs. Non, contre blanc, on prend quelques white, quelques blancs de gauche.
On continue. On
continue avec Pierre Bénichoux.
Pierre Bénichoux.
Qu'il n'y a pas plus antisémite que les Polonais.
Pow! Pow!
Ça, c'est ce qu'on appelle une punchline.
Punchline.
Voilà.
Sept mots.
Sept mots dans ta gueule.
N'oubliez jamais un truc, il est auvergnat. Il est auvergnat. C'est un drame. C'est un drame.
Enfin bon, je vais faire une exception.
Mais je me mets entre les deux.
Là. Ouais, parce que moi, il n'y a aucun problème. Moi, je suis très facile.
Oh, Amine, bravo. Amine, c'est l'intégration. C'est l'intégration.
Amine, franchement.
Non, non. Il est beaucoup plus grand que nous en plus.
Lui, il parle arabe. Hein.
Non, bon. Mais c'est pas impressionné. C'est des socialistes à souper.
Il est catholique. Il mange des cochons et
quoi. Ça ne correspond pas du tout au prototype. C'est pas du tout ça. Il en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que les problèmes. Allez, bon courage. Hein.
Merci.
Aux Français des tropiques qui veulent travailler à l'antillaise et consommer à la métropolitaine, rappelons qu'il faut labourer la terre arable pour qu'elle lève d'autres moissons que celles du songe et que, hors de la France, les Antilles seraient au mieux une usine à touristes américains, au pire un paradis fiscal rongé par la mafia ou un Haïti bis ravagé par les tontons macoutes moins débonnaires qu'Yves Jégot.
On continue avec Jacques Séguéla. Voilà.
L'Africain a su préserver une part de rêve qui reste intacte malgré nos sociétés phagocytées par l'argent. Il garde une pureté, une innocence, une naïveté qui est la forme que doit prendre la publicité. L'Africain est heureux malgré les drames qu'il côtoie. La publicité doit réveiller l'enfant qui sommeille en nous. La force de l'Africain, c'est de savoir garder cette part enfantine que les autres adultes effacent.
La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait.
Attends. Statistiques de délinquance des mineurs, je pense qu'il y a entre 90 et 95% de noirs et de maghrébins.
Est-ce que le fait que des gens aujourd'hui s'appellent Mohamed, s'appellent Diallo, est-ce que ça vous choque?
Oui, ça me choque.
Vous êtes fils d'un kabyle? Marié à une catholique picarde, d'un boxeur devenu chauffeur routier avant-hier. Bon, ça commençait pas terrible. Je reconnaître la chose. Heureusement, la République vous a ouvert les portes. Bon, disons que, question rêve, on part de loin. Vous avez déjà choisi la fiction contre la réalité, en préférant le nom de Daddy Boone au très joli nom qui était le vrai, Daniel Amidou. Bon. Bon, ça s'aggravait de plus en plus. Bon, je peux me permettre, moi c'est Sarkozy, mais enfin Amidou quand même. On va faire une carrière avec ça. Bon.
C'est ticket pour ce soir.
D'accord, vous avez été invité.
Oui, par le préfet.
À droite, certains participants affichent de manière tranchée leurs convictions sur ce débat.
Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable. Mmh. Et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui? Par quoi?
Par qui, par quoi? Il y a déjà 10 millions. Hein? Mais il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre.
And the loser is...
Alors les losers sont quand même assez nombreux. Alors nous sommes toujours avec Gilles et Penda pour discuter des Indivisibles et pour discuter des Yabon Awards. Alors là, c'est quand même assez... nous avons eu un florilège de tous les nommés. Et dans ce florilège, on n'a pas pu vous n'avez pas pu en choisir un puisqu'il y avait quand même différentes catégories.
Hein. Ouais. Il y a différentes catégories, effectivement. Il y a le bruit et l'odeur, origine contrôlée, Antilles.
Les Éric,
les envahisseurs.
Pour l'ensemble de son œuvre, meilleur pas. Espoir.
Il touche pas à mon pote raciste. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est assez hallucinant d'en venir à faire des catégories et d'avoir assez de matière, finalement, pour décerner des prix dans ces catégories. Voilà.
Oui, puis la soirée a duré quand même environ 2 heures et on a choisi les phrases les plus pertinentes, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout mis non plus, quoi. Et là, ça fait un peu peur.
Oui, c'est-à-dire que dans les Éric, il y a quand même un potentiel non négligeable, parce que je pense que M. Zemmour et Raoult aussi, d'ailleurs, hein, à peu près chaque discours, il y a un potentiel pour lui remettre une banane d'or, puisque c'était quand même ça le prix
l'objectif,
qu'il recevait.
C'est celui-là, oui.
Non, il leur fallait un nom de catégorie à hauteur de leur engagement dans la lutte pour le racisme. Donc...
Et donc pour le bruit et l'odeur, nous avions comme vainqueur c'est Jacques Séguéla.
C'est Jacques Séguéla, effectivement.
C'est assez extraordinaire ses propos, mais il n'y avait pas que celui-là d'ailleurs.
Alors il n'y avait pas que celui-là comme propos de Jacques Séguéla, effectivement. C'est quelqu'un qui a parlé entre guillemets de Barack Obama, donc je peux vous citer une de ses citations. Enfin, je peux vous citer un de ses propos en parlant de Barack Obama. L'un des autres invités de l'émission, après l'avoir entendu dire. La classe pour le président, quand même, il a tout. Demande à Séguéla si Nicolas Sarkozy aurait été capable de faire la même chose. Ce à quoi répond Jacques Séguéla, oui, mais je ne sais pas s'il aurait eu le même déhanché, parce que ça, c'est inné. Voilà.
Eh oui, effectivement, on avait oublié. Les Noirs ont le rythme dans la peau.
Le rythme dans la peau, le déhanché, une espèce de classe naturelle. Donc voilà, c'est un petit peu le genre de propos en fait, qu'on traque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'association, effectivement, on effectue une veille médiatique, mais que autant que possible, on essaye de répondre à ce genre de propos. On essaye de répondre concrètement par des articles qu'on publie sur notre site internet ou en obtenant des droits de réponse dans certains quotidiens. Bon, pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup, hein, je vous avoue. Mais l'objectif, c'est déjà de formaliser une réponse face justement à ces propos. C'est de nous de nous exprimer en expliquant point par point pourquoi est-ce que ce que là vous dites c'est dangereux, pourquoi est-ce que ce que là vous dites ça contrevient à notre charte et en plus à l'esprit républicain. Donc je pense que c'est très important, au-delà des yabons, de se poser des bonnes questions et d'avoir de bonnes méthodes aussi pour répondre concrètement à ce genre de propos qu'ils émanent d'un publicitaire assez connu quand même, ou du ministre de l'Intérieur, du président de la République, de journalistes, de philosophes.
On essaie aussi de développer les happenings. Bon, pour l'instant, ça reste...
Voilà. Donc, voilà, c'est encore une des formes d'action des Indivisibles, c'est d'organiser des happenings. Et ça a été le cas à la mairie d'Evry, lorsque Manuel Valls a parlé de White...
De Blancos.
Voilà, donc on a organisé un casting géant pour chercher des Blancos et des White et des Blancs pour Emmanuel Valls. Voilà.
Après, le blanc, ce qui est compliqué, c'est que c'est une catégorie qui est plus large, par exemple... Est-ce que, par exemple, moi, je suis blanche, je ne sais pas.
Pour Manuel Valls, oui, effectivement, vous êtes blanche, voilà, pour lui. Après, effectivement, c'est un peu plus vaste. Mais comme peut l'être, entre guillemets, la catégorie noire, comme peut l'être... Voilà, je pense qu'après, c'est plus la stigmatisation. Ce qu'il dit, c'est... là, tu mets plus de white, plus de blanco, bah parce que sinon, ma ville, elle va ressembler à rien. Quoi.
Oui, parce que ça voilà. Donne une mauvaise image de la ville.
Voilà,
en fait,
exactement.
Et d'un point de vue vocabulaire, il y a aussi l'utilisation du terme white ou blancos. Pourquoi ne pas utiliser tout simplement blanc? C'est assez mystérieux. Mais
c'est très rare aussi. Hein. Quoi, j'ai remarqué que c'est très rare. En général, on dit facilement black pour désigner quelqu'un qui est noir, mais pour dire... Soit on ne désigne pas le blanc parce que c'est...
Parce que c'est la norme.
C'est la norme, c'est l'universel, donc c'est on ne le désigne pas. Ou bien, voilà, effectivement, il utilise le mot white ou blanco, mais ça m'a étonné parce que c'est vrai que c'est rarement utilisé.
Ça faisait jeunes, voilà. Mais pour rebondir, effectivement, sur le terme black et white, notre première action concrète, ça a été de réaliser, en fait, un petit clip d'animation qui mettait en situation, dans le milieu de l'entreprise, deux collègues, dont un qui voulait désigner un de ses collègues par le mot, en fait, black, voilà. Et il n'osait pas dire, en fait, le mot noir. Et
C'en est presque physique, il n'arrive pas à le dire.
Et en fait, voilà l'action en fait, qui a un petit peu lancé un petit buzz sur Internet.
Je crois qu'on va pouvoir l'écouter. Alors attention, notre technicienne magique va-t-elle arriver à le faire partir? Allez, c'est parti.
L'autre jour, j'ai dit à Roger.
C'est ça ?
Mais Roger !
Qui ?
Mais Roger !
Je connais pas.
Mais si, tu sais bien, Roger, là, le grand black.
Oh, le noir, tu veux dire ?
Oui, enfin, celui-là, quoi.
Mais c'est quoi le mot qui te gêne ? Noir ?
Mais non, pas du tout.
Noir, tu peux le dire, tu sais ? Noir ? Dis-moi, Roger, t'es bien noir ?
Ah oui, complètement, puis depuis ma naissance.
Mais tu vois, tu peux le dire, il est au courant.
Ah oui, hésite pas. Black.
Allez, fais un effort, tu peux y arriver.
Black.
Allez !
Allez !
Noir ! La scène que vous venez de voir ne se base sur aucun événement réel. Il s'agit d'une fiction. Pour information, l'utilisation du mot « noir » ne fait courir aucun risque ni à vous ni à votre entourage. Il est donc inutile de lui substituer les mots « black » ou « personne de couleur ». Le mot « noir » est garanti sans danger et fait même partie des mots les plus sûrs de la langue française, derrière les mots « tarte aux pommes » et « rhododendron ».
Alors, effectivement, votre...
Oui,
ça a marché, hein, tout le monde rigole. Votre objectif de l'humour est tout à fait...
Atteint,
tout à fait.
On voit ça.
Moi, je me posais la question sur les Yabon Awards. Est-ce que vous organisez une remise de prix? Enfin, je veux dire, bon, il y a la cérémonie où il y a les gagnants, entre les gagnants par catégorie. Mais est-ce que vous allez remettre les prix aux gagnants?
Alors, les primés sont invités. Là, leur chaise est restée vide, hein, mais ils sont invités. Et là, le journaliste Mustapha Kessous s'est engagé à remettre son prix à Brice Hortefeux.
D'accord. Voilà. Ouais. Mustapha Kessous, il faut rappeler peut-être...
Oui, Mustapha Kessous, en fait, c'est un journaliste du Monde qui a lâché une bombe. C'était, je crois, c'était cette année ou l'année dernière, je crois.
Cette année. Ouais.
C'était cette année. Qui a lâché une bombe, en fait, en publiant et en rédigeant un article sur sa vie professionnelle. Qui a un impact sur sa vie personnelle, puisqu'en fait, c'est un journaliste maghrébin, c'est comme ça qu'il se définit. Et c'est comme ça qu'il est vu, surtout, de la part des gens qu'il va interviewer. Donc, il a relaté, en fait, dans un article du Monde, ses péripéties, qu'elles soient par rapport, justement, à Brice Hortefeux, qu'elles soient lorsqu'il se déplace en province. Toutes ces attaques, on peut le prendre comme ça, ce sont des attaques en fait, ce sont des attaques sur votre personnalité, sur votre parcours. On questionne aussi votre parcours, on questionne vos compétences.
Vous demandez toujours sa carte de presse.
Exactement.
Est-ce qu'il travaille vraiment au Monde?
Et
des gens ont même vérifié en téléphonant au Monde pour savoir si c'était pas quelqu'un qui se faisait passer pour un faux, je ne sais pas, un voleur
de... Un faux journaliste du Monde, voilà. Donc Mustapha Kessous a relaté ça en fait dans un article. Qui a été publié dans le quotidien et qui a été publié aussi sur le site et qui a eu un gros écho parce que effectivement c'est sorti aussi dans une période où cette problématique était clairement remise en question. Est-ce que concrètement vous pouvez être un journaliste au Monde dans un journal, le journal le plus élitiste qui soit, et être finalement grand reporter au monde et maghrébin.
Alors voilà. Que normalement, 90% des 95% des délinquants sont maghrébins. Alors comment finir voilà. Je ne sais pas, Monsieur Zemmour, une solution?
Je ne sais pas s'il a une solution.
Je ne veux pas l'entendre, moi. Non plus.
Oui, alors quand vous parliez des Yabons, vous avez organisé quand même une cérémonie qui est assez bien, voilà, c'est très professionnel, il y a énormément de gens des médias qui y participent. Comment vous avez fait en sorte de trouver tous ces gens pour valoriser cette action?
Payés.
Vous avez payé? Non, c'est pas avec vrai. Des bananes.
Vous avez payé avec des bananes dorées. Non, c'est un travail de longue haleine de mobiliser en fait l'opinion publique, d'autant plus sur ces sujets-là. Je pense que c'est des sujets qui sont quand même assez sensibles dans l'opinion publique. Et c'est vrai que de voir des artistes s'engager à nos côtés, je prends l'exemple de Bruno Solo, je prends l'exemple d'Hervé Pierre,
Sonia Roland,
voilà, sont des gens qui nous ont fait confiance. Comment ça se passe? On les contacte, on essaie de joindre leur agent. Concrètement, c'est passer par l'agent, c'est appeler, c'est solliciter, c'est faire une première rencontre, ouais. C'est essayer de voir si les gens sont intéressés. Et c'est pas forcément, encore une fois, prendre des gens qui se sentent investis personnellement ou qui se sentent concernés à première vue par la question. C'est aussi de prendre des Français, justement, comme tout un chacun, qui, par notre discours, peuvent être interpellés et qui souhaitent aussi combattre le racisme et les préjugés avec nous par ces moyens. Donc, moi, je trouve ça bien, en fait, qu'il y ait eu... un panel aussi large dans les jurés, comme Bruno Solo, comme on l'a dit, Sonia Roland, Aziz Zemmouri, Mona Chollet. Enfin voilà, c'était un jury assez éclectique qui respectait, je pense, assez bien la parité homme-femme en plus. Donc,
oui, effectivement. Parce que si les nommés étaient essentiellement des hommes, bon, effectivement, il y avait par exemple Christine Ockrent qui parlait de Radio Tam Tam pour RFI.
Calixte Beyala aussi.
Qui a parlé des qualités naturelles du Senbolt.
Oui, des Noirs qui sont des très bons athlètes.
Voilà, c'est ça. Basé sur je sais pas quel sur le sang, enfin des trucs un truc de fou, quoi.
Arlette Chabot aussi, qui est directrice de la rédaction de France 2, donc voilà.
Oui, parce que quand on parle des préjugés, il y a les préjugés qui sont, on va dire, positifs, c'est pas positif, hein, je dis pas, oui. Ça comme une qualité naturelle, non. Par exemple des Asiatiques, par exemple, qui sont très forts, qui sont très travailleurs.
Voilà, qui sont très travailleurs et qui en plus sont très forts en maths, donc je pense qu'il n'y a pas de préjugés
positifs. Et qui s'intègrent
bien. Je pense qu'il n'y a pas de préjugés positifs, il y a des préjugés tout court.
Mais c'est vrai que la personne qui l'énonce peut prendre ça, peut donner le sentiment que c'est un compliment, en disant « Ah, mais c'est un compliment que je te fais, ben, tu danses bien, c'est parce que t'es noir,
voilà,
c'est un compliment. »
Tu danses bien, voilà. T'es fort en maths, mais tu dois bien travailler, non, ça... mais t'es asiatique, mais tu dois toucher, tu dois assurer en maths, enfin, je comprends pas, quoi.
Ça
je comprends pas que tu comprennes pas, en fait. Tous les Asiatiques sont forts en maths, enfin, voilà.
Oui, c'est encore une étiquette qu'on colle et qui est stigmatisante, et voilà, la personne, l'individu ne se résume pas à ça, quoi.
Donc, on peut penser que si entre guillemets, il y a des préjugés positifs naturels, mais ça ne te fait pas plaisir que je te le dise, ben on peut aussi penser qu'il y a des préjugés. Enfin, voilà, nous, on ne fait pas de différence, on ne fait pas de degré. On ne va pas accepter des préjugés plutôt que d'autres. Nous, ce qu'on est en train d'énoncer, c'est que si vous vous permettez justement de... Si vous permettez d'avoir des préjugés, entre guillemets, qui sont stigmatisants, nous, on vous apporte une réponse face à ça. Ce n'est pas parce que vous croyez qu'ils sont positifs qu'on va vous les laisser dire. Non, ça, c'est faux.
Et considérez en plus que, par exemple, les Noirs ont des qualités, des aptitudes physiques qui leur permettent de gagner aux courses, etc., et d'être meilleurs en sport. C'est, à contrario, dire, si vous êtes bon en sport, c'est que vous êtes moins bon, je sais pas, à l'école, pour
on
faire de la politique,
bon partout.
Ce genre de choses. Voilà, voilà. C'est ça, on peut pas être bon
on
partout.
On peut pas être bon partout.
Et
donc
du coup, le pseudo-positif, de toute façon, se révèle être du négatif.
Voilà. Et c'est très dangereux, justement, s'attaquer aux préjugés. Je pense que c'est très instructif. Moi, j'ai beaucoup appris, mais c'est très dangereux. Voilà, ça incrémente, en fait, si vous voulez, ça alimente une thèse qui, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Derrière, il y a le message, Ben, vous êtes. Pourquoi est-ce que vous voulez travailler dans cette entreprise? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce métier? Naturellement, vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes plutôt fait de la danse, fait du foot. Voilà. Pourquoi tu veux faire des études de journalisme? Voilà. Pourquoi est-ce que tu veux scientifique? Mais attendez, attends, c'est pas possible. Voilà, voilà ce qu'il y a derrière. Voilà, voilà derrière ces préjugés. C'est aussi celui qui les reçoit. Si on ne les déconstruit pas pour celui qui les entend, il peut aussi se persuader que ben, ça, il ne pourra pas le faire parce que naturellement, voilà, il n'est pas fait pour ça, entre guillemets.
Oui, parce que en fait, ce qui est assez terrible dans cette banalisation des propos racistes et tous les préjugés qui sont émis dans les médias, c'est que par exemple, je crois que c'est un article qui date d'hier dans Le Monde, il y a eu, je crois qu'il y a les assises de la lutte contre les préjugés en ce moment, ou en tout cas ça a eu
c'était
lieu.
C'était dimanche, organisé voilà. Par Sciences Po et par
l'UEGF. Bon, un truc un peu bizarroïde.
3 ou 4 jours après les Gabons, donc c'était un peu bizarre effectivement.
Bon, je ne veux, mais en tout cas, il y a eu un sondage qui a été réalisé à ce moment-là par l'Institut BVA, et il y a des résultats qui sont tout à fait... étonnant de catastrophisme en matière, disons que nos chers concitoyens donc, considèrent par exemple à près de 30% que les Arabes sont les délinquants. Alors qu'il y a un an, même sondage, bon, ben, les Arabes étaient considérés comme des délinquants à 12%, on va dire, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment une banalisation qui fait que ça quand même, dans la conscience des gens, ça a des effets.
Ouais, une banalisation, une récurrence aussi des propos. Alors ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais le terme stéréotype, en fait, au départ, c'est un terme d'imprimerie. Et le stéréotype, c'est un procédé en fait, qui permet de répéter un même motif en fait, à l'infini. Voilà. Et le stéréotype, voilà, finalement, c'est ça, c'est répéter sans cesse, rabâcher la même chose que, bah, attention, les femmes en burqa, c'est dangereux, etc.
Mais voilà, c'est un sondage qui est assez étonnant par les réponses. De passer en un an de 12% à 30% sur la même question, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Moi, personnellement, comme ça, très très vite, je l'explique par la profusion, justement, de la part d'hommes politiques qui n'ont eu de cesse, justement, de stigmatiser une partie de la population. Quand vous avez un débat sur la burqa, un débat sur justement tout ce qui coûte, enfin le débat sur le halal, voilà,
le débat sur les mosquées,
sur les minarets, enfin voilà, il faut pas s'étonner après que la majorité, enfin pas une majorité, mais on peut pas s'étonner après qu'il y ait une progression d'idées négatives sur une partie de la population, en l'occurrence celle qui est stigmatisée et celle qui est montrée du doigt en permanence par les hommes politiques et ceux qui dirigent. Donc voilà l'explication aussi.
Oui, ce sondage est assez terrible parce qu'après ils disent aussi que pour près d'un Français sur deux, les étrangers savent mieux profiter du système de protection sociale que les autres. Il y a aussi 30% des sondés qui considèrent que les Noirs sont plus forts physiquement que les autres et 30% qui considèrent que les Juifs ont plus d'influence que les autres dans les finances et les médias. Donc c'est quand même des résultats qui sont tout à fait catastrophiques.
Ce texte commencera par une petite mise en garde aux donneurs de leçons, aux attitudes snobinardes. Ceux qui pensent que mon combat est dépassé, illégitime, abusif ou infondé. Ceux qui me taxeront de misérabilis parano. Ceux qui ne comprennent ni ma musique, ni mes mots. Sachez que je n'excuse ni votre ignorance, ni l'histoire colonialiste de notre douce France. Mon daron m'a dit, si fiston t'es pas chez toi, fais-toi tout petit mon petit, en gros tais-toi. La France nous aime pas parce que nous sommes différents, pas facile à comprendre pour un monde de 6 ans. D'accepter de faire sa vie dans une soute à bagages, parce que ses ancêtres en ont eu marre d'être des esclaves. Comme personne n'a jugé bon, garder ça en mémoire. Alors j'ai pas vu mon grand-père dans les livres d'histoire. J'ai pas vu en Indochine les viols et les pillages, dans les dom-toms, les massacres et l'esclavage évaporé. Les douleurs et les souffrances, les tortures en Algérie, tout le monde s'en balance. Les tirailleurs sénégalais, tout le monde s'en balance. Et qui est-ce qui morfe? C'est leur descendance. J'accuse l'école de cultiver l'ignorance dans la censure, la haine dans la dissimulation de son passé, de ses blessures. On m'a rabâché des trucs comme démocratie, liberté, droit de vote, fraternité, égalité. Et personne n'a été fichu de me dire qui j'étais, de me dire ce que je foutais là, tout frisé, tout bronzé. De me dire pourquoi mon nom de famille était écorché, pourquoi certains enfants n'avaient pas le droit de me parler. Bienvenue au pays des droits de l'homme, de l'exclusion, de l'exception culturelle, des discriminations.
là où on entasse les Arabes et les Noirs. Comme de sales vulgaires souris de laboratoire, au royaume de la manipulation et du silence. Ça te parle de mixité, de mélange, d'échange et de différence, de tolérance, laïcité pour se donner bonne conscience, alors que la haine raciale sévit dans la plus grande indifférence. Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense et qu'elle est belle. Elle est belle la France.
Elle est belle la France, avec son cortège d'indécence. Ces criminels de la petite enfance qui siègent dans les hautes instances. Ces ministres en vacances quand suffoque la vieille France. Papy ne fait plus de la résistance, il meurt de chaleur en silence. Dans la plus grande indifférence, celle de ses enfants, celle de son voisin en face. Elle regarde ses familles africaines entassées dans des cages à poules. Ça prend le feu mais c'est pas grave, c'est que des noirs, ça roule. Tout le monde s'en fout comme de l'an 40, comme du scandale du sang contaminé ou celui de l'amiante. C'est clochard qui refroidissent en hiver. Seul au passage, respect à l'abbé Pierre qui essaie de sauver les meubles. Entre nous, elle a pas fait long feu, la France en bas. Je crois qu'on peut même dire qu'elle a mangé sévère. Aux pauvres, on ne tolère pas le moindre écart. Tolérance zéro pour les ouvriers, les chômeurs et les smicards. Ils s'en sont pris plein la gueule. En plus, faudrait qu'ils la ferment. Cette bande de fainéants qui ne savent que se plaindre et faire grève. À côté de ça, ces soi-disant serviteurs de l'État continuent à magouiller sur le dos du tiers-État. Fausse facture, emploi fictif, détournement de fonds, sans problème. Ils s'en mettent plein les fouilles, et j'en place une pour mon idole. Notre président de la République, qui depuis 10 ans pourrait être en tôle. À cohabiter avec Mohamed et Benhamer. Hey, si vous ajoutez le bruit et l'odeur. Elle est belle la France, qui déploie une véritable armée pour capturer l'ennemi public José Bové. À côté de ça, ces messieurs du CSA et de l'UMP finiront par s'en sortir blanchis et innocentés. Pas comme ce jardinier arabe répondant au nom singulier d'Omar Radan, analphabète, pauvre musulman, pas de chance. Et ouais, monsieur Ladad, elle est belle la France.
Ah, pardon. Alors, on est toujours dans les oreilles loin du front. Et donc, effectivement, elle est belle, la France. C'était MAP, donc ministère des Affaires Populaires, à l'instant. Pour un peu clôturer l'idée des Yabons, et puis aussi par rapport à votre action, en fait, tous ces préjugés racistes et préjugés en général, mais surtout les préjugés racistes, ça vient pas de nulle part. Et puis, en même temps... Vous avez bien nommé cette cérémonie les Yabons, et ça vient donc, donc ça rappelle le racisme colonial, et on a bien l'impression quand on regarde, ne serait-ce que regarder les nominés, revoir les vidéos, réécouter les propos de tous ces gens-là, que finalement rien n'a bougé. En tout cas, c'est ce discours-là qui se réactive aujourd'hui et qui se perpétue.
Ouais, je pense qu'effectivement, tout ça, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, c'est un héritage qui date d'il y a très longtemps et qui, en gros, c'est pour pouvoir justifier la colonisation, pour pouvoir justifier la traite négrière, pour pouvoir justifier ce genre de choses, il faut doter les personnes qu'on soumet de certaines qualités par exemple
physique.
Je vais être dure, hein, mais soit physique, presque animal, alors les noirs sont bons en sport, du coup les noirs ont le rythme dans la peau, voilà, c'est des choses très très physiques, ça va être
je pense à Marie-Josée Pérec lorsque effectivement elle avait gagné les Jeux Olympiques, on la surnommait la gazelle, voilà, c'est effectivement un vocabulaire animalier pour désigner une personne, donc là c'est des gens en soi bizarres, c'était très très axé sur effectivement gazelle, panthère, voilà.
C'est un animal, on va dire, tropical.
Voilà, c'est un animal tropical. Et puis, vous pouvez pas ne pas comprendre pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas être appelé la gazelle. La gazelle, c'est beau, c'est magnifique, ça court vite, c'est racé. C'était un peu dans cet esprit-là que... Enfin, nous, on s'est marqué aussi en opposition. On a appelé ça les Yabons, comme vous l'avez dit. Les Yabons, c'est la célèbre formule banania. Le parler en fait petit nègre dans la publicité qui faisait la promo de ce Yabon Banania, c'était du
chocolat en poudre,
du chocolat, effectivement,
ça existe toujours,
c'est
toujours, hein,
c'est du chocolat en poudre, donc voilà, c'est un petit peu c'était un petit peu pour rester dans notre lignée qui se veut ironique, et pour faire un petit clin d'œil aussi aux préjugés qui datent de l'époque coloniale. Voilà.
Préjugés qui datent de l'époque coloniale et qui restent encore ancrés de certaines façons.
Qui se perpétuent et qui sont. Qu'on alimente malgré nous, mais qui sont alimentés encore aujourd'hui, que ce soit par des journalistes, que ce soit par des hommes politiques. C'est ce qu'on a vu, c'est les petits extraits que vous avez montrés. Ils sont à la fois éloquents, mais je ne sais pas si on a évolué ou si. Enfin, c'est assez difficile parce que. On se dit, nous, on fait un travail, il y a eu des actions qui sont passées auparavant, mais finalement, on n'a pas l'impression que ce genre de préjugé puisse être stoppé. C'est comme lorsque vous regardez une série télé. Moi, je regardais la télé hier, il y avait l'apparition d'un homme noir. C'était dans un cadre, on va dire, c'était en vacances. Et le seul homme noir qui vient à l'écran, ben, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui a un chapeau de paille et qui a l'air béat. Donc en 2010, retrouver ce genre d'image,
c'est le paysan africain qu'on parle, Sarkozy.
Voilà, en 2010, dans une fiction française, retrouver ce genre d'image, c'est quand même assez. Pour moi, c'est un retour. Pour moi, c'est le signe que les choses n'ont pas évolué, justement. Mmh.
Bah justement, dans un autre genre, en 2010, un des films qui a eu le plus gros succès en salle, c'est Avatar. Et Avatar, quand même, le principe, c'est... Alors, effectivement, on est loin... Enfin, c'est de la science-fiction et les personnages sont en partie non-humains. Mais en attendant, c'est quand même les humains, et donc des Blancs, enfin, en l'occurrence, qui vont sauver les indigènes parce qu'ils ne sont pas capables de se sauver eux-mêmes. Donc, c'est un peu... Bah, c'est un peu ça. Le héros, c'est quand même lui qui y va. Hein.
Donc, l'homme blanc.
C'est lui qui les soulève.
Et sa mission civilisatrice.
Et sa mission pacificatrice. Même si, civilisatrice, effectivement.
Même si c'est sous un vernis, on aime bien leur culture et tout ça. Mais bon.
Oui, c'est pas la fiction, c'est pas l'animation et le film d'animation ne saurait cacher derrière, effectivement, un discours avec la colonisation, effectivement, enfin, on retrouve, on peut le transposer, effectivement, tout simplement à l'homme.
Mmh. Ouais. Justement, dans vos actions avec votre association, vous avez par exemple le projet de faire des fictions télé.
Alors, ce ne sont pas des
films d'animation.
C'est des films d'animation.
Inspirés des quatre qui ont déjà été réalisés. Voilà. Et donc, c'est un projet. Quoi, déjà bien avancé d'ailleurs, qui est plus au stade de projet, mais qui est en collaboration avec DACP de l'autre côté du périph, qui est une société de production dirigée par Laurence Lascari, qui est une de nos membres en fait. Et donc ça sera 26 films d'animation de 3 minutes. Et voilà.
Qui auront pour objectif de déconstruire les préjugés, d'aborder ça effectivement sur un ton humoristique, en maniant l'ironie. Comme le premier extrait que vous avez montré tout à l'heure.
Et en voilà un deuxième. C'est parti.
Tiens, je t'ai apporté ton sandwich au thon.
Merci.
Ah non, mange pas ça.
Fais gaffe. Qu'est-ce qui se passe?
Je me suis trompé. C'est du porc, t'as pas le droit.
Tu sais, je n'ai pas de régime particulier. Oh, et t'as déjà croqué dedans.
Mais non, t'es juif. Tu manges pas de porc, normalement. D'ailleurs, ta famille, ça va?
Super bien.
Ah, tant mieux. Il fait pas bon vivre en Israël en ce moment.
En Israël? Toute ma famille vient de Toulouse.
Mais si une guerre éclate entre la France et Israël, tu choisirais quel pays? Oh, t'imagines quelle boucherie ce serait? 50% cachère. Elle est bonne, hein? Pourquoi tu ris pas?
En effet, une vraie boucherie.
La scène que vous venez de voir est une fiction. Elle ne repose sur aucun fait réel. Présumé de la nationalité ou de la pratique religieuse de quelqu'un à partir de son apparence ou de son nom ne fera pas exploser votre tête. Vous risquez simplement de devenir impopulaire auprès de vos collègues.
Effectivement, les médias ont un rôle très important, en tout cas sur la lutte pour la déconstruction des préjugés, mais il y a aussi l'éducation, ou en tout cas le travail au sein d'entreprises, ou la communication. Et je crois que vous avez des projets aussi pour travailler au sein d'écoles, de faire des actions ou en entreprise.
Effectivement, c'est un travail qu'on a déjà entamé. On a déjà fait plusieurs interventions, que ce soit dans des collèges, en université, auprès de jeunes en fait, étudiants qui ont un parcours... universitaire. On était tout simplement à l'UIT de Bobigny, auprès d'étudiants de GEA, par exemple, où il y a eu une session pour déconstruire les préjugés avec un échange avec les étudiants. On a des tests. On a constitué, si vous voulez, une sorte de petite mallette qui nous permet, en fait, auprès d'un public qui soit d'étudiants, qui soit de collégiens, de la même manière d'aborder les choses, de même manière, en fait, d'échanger sur les préjugés que vous pouvez avoir, sur les réponses qu'on peut vous apporter là-dessus, sur la déconstruction. C'est des choses qu'on fait, et pour nous c'est aussi intéressant parce que les populations sont, enfin, le public visé, il est demandeur aussi de ça, et finalement il se révèle, c'est-à-dire qu'on le pousse quelque part, à bout, sur les préjugés ou prétendus préjugés qu'il peut avoir et qu'il peut conserver, et il peut se révéler, effectivement, se découvrir comme auteur de préjugés et non plus comme victime aussi. Voilà, c'est aussi ça, c'est de se dire que on est souvent victime de préjugés, mais on peut autant en avoir, quoi.
Ouais, puis c'est vrai aussi que les publics, notamment adolescents, n'ont pas toujours de recul par rapport aux médias. Et on essaie de pointer le doigt là-dessus, justement, en sortant quelques phrases des Yabon Awards, en leur en parlant, en leur demandant qui a pu dire ça, par exemple, etc., pour qu'ils essaient de se dire « effectivement, c'est pas normal quand on dit un homme noir d'une trentaine d'années a volé le sac d'une vieille dame, etc. » Pourquoi on précise le mot noir ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça apporte vraiment une information ? Pourquoi on le dit, etc. quoi.
Le premier test, en fait, qu'on fait quand on se déplace dans un collège ou auprès d'une population étudiante, le premier test qu'on fait, c'est décrivez-nous, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un français ? Voilà.
À quoi on reconnaît un français ?
Qu'est-ce que c'est que pour vous un français ? Donc on était, vous êtes parmi des étudiants, et puis vous pointez, qui veut répondre en premier ? Un français, c'est un blond. Français, c'est un blond aux yeux bleus. Français, c'est un blanc.
Un français mange du porc.
Un français mange du porc. Un français va à l'église. Voilà, c'est un petit peu, voilà, ça commence comme ça. Et là, vous avez des préjugés aussi. Là aussi, vous avez des préjugés. Et là aussi, l'action qui se révèle derrière, c'est de se dire que donc vous ne vous considérez-vous pas comme français, puisque vous ne ressemblez pas à la description que vous venez de donner.
Oui.
Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant. Et tout ce travail, c'est ce qu'on essaye de réaliser.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même, ces dernières années, on a l'impression que l'identité française, c'est quelque peu figée.
Alors, elle s'est figée, mais c'est figée pourquoi ? C'est figée parce qu'il y a des hommes politiques qui essayent de faire croire aux gens qu'un Français doit avoir ce type, d'avoir ce comportement, d'avoir cette religion, et que tout ce qui ne fait pas partie de ce cadre qui a été imaginé, finalement, n'est pas français. Si, effectivement, vous mangez du porc, si vous ne mangez pas de porc, par exemple, si en plus vous mangez halal, si en plus vous êtes un musulman pratiquant, vous n'êtes pas réellement français, quoi. Voilà ce qu'on essaie de nous dire depuis quelques années déjà. Il y a une espèce d'identité qu'on a voulu remodeler, et le débat sur l'identité nationale était là pour ça. Une identité qu'on a voulu figer, figer dans le temps. Et nous, ce qu'on dit, c'est que l'identité française, elle évolue. L'identité française, elle est complexe, elle est multiple. Elle n'est pas composée que, justement, d'un seul type. Et voilà, elle évolue avec le temps, elle évolue avec les générations. Et que cette identité, c'est pas quelqu'un qui va vous dire, ce que vous devez être. Voilà, l'identité française, elle est multiple. Ça va des dom-toms. Il y a plein de manières d'être français. Voilà, c'est pas seulement entre guillemets l'église, le bon vieux clocher. Il y a ça et il y a aussi d'autres choses. Et vous en êtes pas moins français si vous avez d'autres aspirations, d'autres cultes, une autre couleur de peau entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ce qu'on essaye de montrer finalement.
Et comment les jeunes réagissent lors de ces actions ?
Bien. Non, ils réagissent. C'est de la découverte pour eux. De savoir que vous avez des préjugés, que vous êtes porteur de préjugés aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes plus seulement victime, mais aussi que vous avez
On
des préjugés. Vous pouvez les véhiculer. Et puis vous pouvez avoir aussi Par rapport à, entre guillemets, votre ami, la personne qui, avec qui vous allez en cours, vous pouvez aussi avoir des préjugés entre vous. Donc ça, c'est important. Je pense qu'ils se révèlent. Et puis, c'est important aussi de leur dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'identité française n'est pas figée. Donc, vous en êtes pas moins français si ne respectez pas les codes qu'on essaye de vous inculquer. Voilà, ça, c'est important. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise réaction. Je pense que c'est plutôt c'est de l'apprentissage, c'est de la découverte. C'est beaucoup de questions aussi. C'est une remise en question pour les gens qui découvrent en même temps tout ce travail de déconstruction. Et c'est intéressant pour eux, voilà.
Alors, si vous travaillez aussi dans les écoles, je crois que vous faites des actions dans les entreprises. Ou alors là, c'est plus ou moins, ça commence.
ça, c'est très difficile dans les entreprises. On a eu,
parce que les préjugés sont encore plus figés, j'ai l'impression, dans le monde du travail.
Alors, dans le monde du travail, effectivement, le premier préjugé, déjà, il y a des discriminations déjà sur, entre hommes-femmes. À poste égal, une femme
27%
gagne
d'écart de salaire.
Voilà, il y a un écart de salaire qui est pas négligeable. On a eu une connexion effectivement avec des organisations syndicales qui effectivement nous ont contactés parce que elles trouvaient le procédé intéressant. Cette manière de déconstruire les préjugés par l'ironie et qui était intéressée pour diffuser nos scénettes auprès justement des organisations syndicales au sein des entreprises pour faire de l'information, pour faire de la formation, pour échanger effectivement aussi. Donc dire qu'on a fait des actions d'entreprise, non, on est en contact avec des organisations syndicales, mais on n'a pas eu, je dirais, le temps de développer des actions concrètes en entreprise. Pour vraiment débattre, c'est très très dur de pénétrer le milieu de l'entreprise, c'est une sacrée remise en question en fait. Donc voilà, je pense que c'est plus facile d'aller dans les collèges, dans les lycées quand on a un public qui est en phase d'apprentissage que de carrément aller en entreprise où là c'est quand même différent quoi. C'est...
Ouais, où là il y a quand même aussi des notions de chef, de subordonné, etc. Et je pense que ça peut être difficile aussi.
Pas trop remettre en cause l'ordre établi au sein des entreprises. La chaîne hiérarchique, c'est assez dangereux. On va nous accuser, d'atteinte à la paix sociale. Vous savez que c'est très important en ce moment. Donc, bon, voilà.
Mais on aimerait.
J'imagine.
Oui, c'est vraiment un bon travail.
Alors, une dernière petite question. Vous êtes une association. Vous avez dit que vous avez une centaine de membres. Et vous fonctionnez comment d'un point de vue finance? Parce que l'air de rien, organiser les Yabon Awards, faire des films. Alors, est-ce que vous avez des subventions publiques, par exemple? Est-ce que Emmanuel Valls vous a donné de l'argent?
Non, on lui en a pas demandé non plus. Mais comment est-ce qu'on fonctionne? Effectivement, on fonctionne par subvention. Pour rien vous cacher, on a reçu une subvention de la mairie de Paris l'an dernier. On a reçu aussi une subvention
aussi,
voilà,
de la Fondation Seligman.
La Fondation Seligman.
Et une subvention de l'ambassade américaine à Paris.
L'ambassade américaine à Paris, voilà. Voilà. Mais ça, c'était l'an dernier.
C'était l'année dernière. Cette année, on vit avec l'argent des cotisations.
On vit avec, voilà. On vit avec les dons. Alors, il y a les dons, il y a les adhésions. Avec le reliquat aussi de l'an dernier. Donc vous m'avez posé, en fait, vous nous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on organisait concrètement les Yabon Awards, la deuxième édition des Yabon Awards cette année. Concrètement, on s'est mis en recherche d'une salle et puis on est tombé sur des gens qui nous ont fait confiance, en l'occurrence Philippe Jupin de la Bellevilloise, qui est le directeur, et qui nous a dit, voilà, votre projet nous intéresse, on serait ravis de vous accueillir et de mettre à votre disposition gracieusement nos locaux, notre technique, notre infrastructure, pour que vous puissiez monter les Yabon Awards chez nous. Donc voilà, c'est aussi des rencontres, c'est aussi des gens qui nous font confiance à un moment donné et qui savent pertinemment qu'on ne va pas pouvoir effectivement assurer toutes les prestations qui sont normalement facturées. C'est un échange et ça a très bien marché cette année avec la Bellevilloise. Ils étaient très contents. Ils ne s'attendaient pas, je pense, à autant de monde, à autant de télé, à autant de radio, à autant de people, si j'ose dire. Mais ça a très bien marché. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne.
Ouais. Les films d'animation, au début, ça a été la même chose, à savoir, on connaît quelqu'un qui connaît, et on lui parle du projet, il est intéressé. Et puis voilà, c'est sa façon de participer à notre action, c'est de travailler bénévolement. Quoi.
On va revenir au troc dans ces temps très très durs au niveau économique. Et on revient au troc, on revient à l'échange. C'est un échange de bons procédés et je pense que voilà, nous on est très contents que des gens nous aient fait confiance.
On les remercie.
Ouais. On les remercie parce que c'est pas évident quand vous êtes un directeur et que vous avez la responsabilité d'un lieu. Expliquer à ses associés que vous allez laisser pendant une soirée pour 0 euro toute la soirée à une association qui va vous ramener
à 100 bénévoles.
Voilà, qui va faire les Yabon Awards et qui en plus va taper sur les politiques. Ouais. Donc voilà, c'est pas neutre. Donc ça aussi, c'est aussi un engagement qui est aussi militant que le nôtre. Voilà.
Et j'imagine que vous allez continuer l'an prochain.
Moi personnellement, ça m'amuse pas trop de faire les Yabon.
Je souhaiterais que c'est les Yabon à avoir 14e édition n'ait pas lieu.
Voilà, il faut pas, on ne vit pas sur les Yabon. Voilà, nous notre objectif c'est pas de vivre sur les Yabon, c'est pas de se dire que on va organiser les Yabon tous les ans et qu'on va traquer le moindre propos. Non, nous notre but c'est justement d'arriver à une diminution de ces préjugés qui sont énoncés par des élites. Là on veut agir concrètement pour que ça cesse. Et pour que, justement, les politiques, les journalistes, les philosophes prennent leur part de responsabilité dans le climat actuel. Voilà.
Que toutes les phrases qu'on a pu entendre lors de cette soirée, non seulement ne soient plus banalisées, mais ne soient plus excusées non plus, comme ça a été le cas.
Voilà. Oui, parce qu'il y avait effectivement le « touche pas à mon pote » qui était quand même l'excuse des propos les plus racistes qui soient. Et comment on peut venir vous aider, par exemple ? Est-ce qu'on peut adhérer ? Est-ce que vous avez un site internet ?
Alors, nous avons un site internet, lesindivisibles.fr, où vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion. On organise une réunion une fois par mois dans le 18e arrondissement à Paris.
C'est la maison des associations du 18e, voilà. Donc 15 passages Ramey.
En sachant que voilà, tout le monde est bienvenu et... Et voilà, on vous attend.
En tout cas, merci beaucoup. Et puis alors, un petit souvenir des gens qui étaient jeunes dans les années 80, je vais vous filer ça.
Dans le monde, ne marche même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai.
Approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et voilà, cette émission des Oreilles loin du front se termine pour ce soir. On était donc en compagnie de Gilles Ependa des Indivisibles. On était autour des micros et des boutons avec Sophie et Juliette. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. On est rediffusé le vendredi de 8h30 à 10h sur cette même antenne de Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM. Et vous pouvez retrouver la plupart de nos archives de nos anciennes émissions et bientôt celle-ci également sur notre site internet www.loldf.org. Et on vous laisse pour l'heure dans les bras des Échos du Capricorne.